Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de ce nouveau numéro de Métropolez-vous. Merci d'être fidèle à cette émission alors que l'actualité internationale est tristement dominée par la guerre en Ukraine. Rappelons que Toulouse a des liens forts avec ce pays via son jumelage avec la ville de Kiev. Quoi que l'on pense des responsabilités dans le conflit en cours, nous aurons une pensée pour les populations qui se trouvent au centre des combats ou qui ont dû les fuir. C'est sans doute dérisoire, mais c'est bien le moins que nous puissions faire en marge de cette actualité très angoissante où l'on aura remarqué que la crise sanitaire a quasi disparu et que la campagne présidentielle est passée au second plan. Il se passe des choses importantes dans la métropole toulousaine. Le chantier de la troisième ligne de métro avance et la mise en service tant attendue du téléphérique Téléo est annoncée dans quelques semaines. Deux équipements de première importance pour les transports et les déplacements sur notre territoire. Nous allons refaire le point sur ces deux projets que la crise sanitaire et les confinements ont un peu mis entre parenthèses depuis 2 ans. Ce numéro est donc consacré à l'avancement du chantier de la troisième ligne de métro et à la mise en service de Téléo. Et pour faire le point sur ces deux chantiers, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans cette émission Jean-Michel Latte, que je salue et que je remercie d'avoir accepté mon invitation. Je précise pour nos auditeurs que vous êtes adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, chargé des transports en commun, des déplacements et des nouvelles mobilités, et président de Tisséo Collectivité, la structure qui administre les transports en commun et les mobilités dans la grande agglomération toulousaine. Quelques rappels pour commencer. Quelle est aujourd'hui l'échéance prévue pour la mise en service de la troisième ligne de métro et quels seront son trajet et les zones qu'elle va desservir ?
Oui, bonjour. L'échéance qui a été déterminée et qui a été recalée il y a quelques mois, c'est 2028. 2028, alors un décalage de 2 ans, pourquoi ? Mais parce que la crise du Covid a impacté très lourdement, en particulier nos recettes, et donc c'est le temps qui nous permet de recaler le dispositif. Ça sera aussi un temps technique nécessairement, hein. Il n'y a pas uniquement la partie coût qui entre en jeu. Alors le trajet, c'est une grande transversale. Le réseau toulousain est un réseau qui était très en étoile. Hein. Les deux lignes vont vers le centre-ville. Là, on a une grande transversale nord qui part de la Bège, qui passe par Montaudran, à côté de Airbus Defence and Space, qui part ensuite vers François Verdier, la gare, en passant bien sûr avant François Verdier par la côte pavée, la gare. De la gare, on part vers le nord toulousain, Bonnefoy, La Vache, et puis on redescend vers les Sept-Deniers, stade toulousain, et de là on part vers Blagnac-Colomiers. Voilà un peu le trajet. C'est une grande transversale nord qui nous permet de sortir du réseau en étoile pour cibler le monde professionnel. Hein. C'est vraiment le monde professionnel qui est ciblé. Et puis on parlait tout à l'heure de Téléo. Téléo, c'est la grande transversale sud maintenant, parce qu'il y a Téléo, on va en parler, mais il y a aussi les deux bouts de Téléo, une ligne de bus rapide d'un côté qui nous amène vers Montaudran et vers Saint-Aurin, c'est de l'autre côté qui nous amène vers Tournefeuille et vers Colomiers. C'est la ligne 25 qui fonctionne déjà depuis septembre.
Puisque vous en parlez, les connexions justement avec les lignes existantes, je pense aux deux lignes de métro A et B et au tramway, les nœuds se feront où ? Les nœuds de connexion vont se faire où ?
Alors, j'ajouterai une connexion, c'est la connexion avec les voies ferrées.
Et les voies ferrées aussi.
Voilà, sur les voies ferrées, on a 5 connexions. 5 gares, c'est quelque chose qui a été travaillé avec la région, hein, c'est pas un hasard. Et on passe par la gare de la Cadenne La Bège, la gare de Montaudran, la gare Matabiau, bien entendu, la gare de La Vache et la gare de Colomiers. Donc 5 gares, c'est un travail qui nous permettra de faire de l'intermodalité avec ce qu'on appellera peut-être un jour le RER toulousain, quand les choses seront développées. Sur la connexion avec le tram, on se connecte à Jean Maga Blagnac. Hein, c'est là que se fait la connexion. Et sur les lignes de métro, il y a connexion sur François Verdier et sur la gare Matabiau. Voilà, deux connexions de plus. C'est important parce que l'intermodalité dépend de ces connexions.
2028 pour la mise en service de la troisième ligne de métro. Pour Téléo, ça va être a priori début mai. On va le préciser tout à l'heure.
Oui.
Les grandes étapes de la construction de la troisième ligne de métro, ça va être quoi ? Parce qu'il va y avoir des tranches, évidemment,
voilà.
De travaux. Hein.
Là, on arrive à la fin de la partie juridique, hein, qui est une partie administrative, avec l'enquête environnementale qui est encore en cours. Et une fois cette étape terminée, on pourra basculer vers le dur du chantier, en quelque sorte. La première étape, c'est le gros œuvre. mais elle est précédée, cette étape de gros œuvre, par ce qui se passe actuellement. Actuellement, il y a des chantiers un peu partout dans la ville. Ce sont des chantiers préparatoires de déviation de réseau qui sont menés par Toulouse Métropole et qui visent à anticiper le gros œuvre qui va arriver. Alors le gros œuvre, ça sera 2023-2026. Il y aura en 2023 une quarantaine de chantiers ouverts sur la métropole, avec l'arrivée des 5 tunneliers, avec la construction des stations. Et ensuite, à partir de 2026, on rentrera dans la seconde œuvre, donc une phase plus douce de chantier, pour terminer avec l'année 2028, qui sera une année de test dans ce dispositif.
Eh bien, merci de nous avoir reprécisé toutes ces choses, donné toutes ces informations en préambule. Elles étaient nécessaires. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité métropolitaine, toujours grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. Vous le savez sans doute maintenant, Toulouse est jumelée avec Kiev et alors que leur pays est attaqué, Toulouse Métropole est aux côtés des Ukrainiens.
Oui, la ville rose est jumelée avec la capitale ukrainienne de Kiev. Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, a dès les premières heures du conflit tenu à exprimer sa solidarité au peuple ukrainien. Le maire de Kiev était venu assister en 2017 au marathon de Toulouse. La mairie de Toulouse a ouvert une page Solidarité Ukraine sur son site afin de faire le lien avec les associations caritatives et humanitaires présentes sur place qui font face à d'importants besoins en matériel d'urgence. Une page dédiée à l'accueil des réfugiés va également être créée pour répondre à l'élan de solidarité qui se manifeste depuis quelques jours, assorti de propositions. Un recensement des possibilités d'accueil et d'hébergement est en cours. Les bailleurs sociaux toulousains, Toulouse Métropole Habitat notamment, vont être sollicités pour recenser les logements potentiellement disponibles. La mairie de Toulouse va également proposer à ses partenaires, à savoir le CHU de Toulouse, l'Université fédérale, la région Occitanie, de réactiver le groupe de travail mis en place à l'occasion de l'explosion de Beyrouth. La mairie de Colomiers coordonne aussi sur son territoire l'ensemble des actions de solidarité des associations et des citoyens.
Elle devait être mise en service en septembre dernier. Finalement, la zone à faible émission, la ZFE de Toulouse, est entrée en vigueur ce 1er mars.
Suite à la loi d'orientation des mobilités, ces ZFE visent à exclure de la circulation en centre-ville les véhicules les plus polluants d'ici 2025. Avant le 31 décembre 2024, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront l'appliquer. Objectif, respirer un air plus sain en enlevant de la circulation les véhicules les plus pollueurs. Ce périmètre englobe l'ensemble de Toulouse, situé à l'intérieur de la rocade, ainsi qu'une petite partie de Tournefeuille et Colomiers. Seuls les poids lourds, fourgons et fourgonnettes ayant une vignette critère 5 ou non classée sont exclus pour l'instant de la ZFE. Au total, il existe 21 dérogations locales. Selon les projections réalisées par Atmo Occitanie, la première année de cette ZFE ne devrait pas beaucoup modifier les niveaux de pollution de l'air. Les véhicules individuels des particuliers ne seront concernés que dans un second temps, en 2023, par cette ZFE.
Et nous terminons avec une information qui va intéresser les usagers du vélo à Toulouse et dans la métropole. Toulouse est 22e sur 38 du classement des villes cyclables.
Oui, la ville rose est dans la deuxième partie du tableau de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Les 4300 participants au questionnaire à Toulouse ont jugé que leur ville présentait en moyenne un climat vélo plutôt défavorable pour une note de 2,96, ce qui la place dans la catégorie E. Parmi les points les plus forts de la ville, la facilité à louer un vélo et la facilité à trouver un réparateur. Les points les plus faibles, l'insécurité à circuler à vélo pour les enfants et personnes âgées, l'absence d'alternatives en cas de travaux et les vols de vélo. Dans l'agglomération de Toulouse, seule l'Union obtient une note plutôt favorable. Pour les autres, les résultats sont assez mauvais.
Le flash d'information hebdomadaire de la métropole par Corinne Saint-Félix. Jean-Michel Latte, il y a trois informations. Je pense que toutes vous intéressent forcément. Je vais vous demander une réaction, un commentaire pour chacune d'entre elles. Oui. La solidarité avec la population de Kiev et avec les Ukrainiens en général, c'était une évidence.
C'était une évidence qui couvre tous les secteurs de la ville. Hein. Jean-Luc Moudenc s'est engagé fortement dans ce dispositif-là. À titre personnel, dans le domaine universitaire, on avait beaucoup de relations avec l'Ukraine. Et donc, fort naturellement, la solidarité sera importante.
L'AZFE, enfin mise en service.
Voilà, l'AZFE, ça vient de l'Europe, hein, puisque c'est l'Europe qui a imposé ces contraintes pour des raisons de santé. C'est François Chollet chez nous qui est en charge de ce dossier. On arrive à la mise en œuvre progressive de ce dispositif.
Et alors, les pistes cyclables, le vélo à Toulouse, apparemment, peut mieux faire quand même.
On peut toujours mieux faire, surtout pour le vélo. Hein. Je suis venu, vous le savez, ce matin en vélo.
Oui, c'est que du vélo.
Oui, permanent. Le programme qui est lancé et qui est mené par Maxime Boyer est le plus ambitieux qui n'ait jamais été développé. On va avoir un budget vélo qui sera très très fort. On applique le schéma directeur vélo qui avait été élaboré par Tisséo et on arrive maintenant dans la phase de construction de ces zones rapides, ces voies rapides au profit du vélo. Donc je pense que dans les années qui viennent, notre classement s'améliorera.
À suivre, merci pour ces diverses réactions et compléments d'informations à l'actualité métropolitaine. Nous allons tout de suite revenir au sujet de cette émission, l'avancement du chantier de la troisième ligne de métro et la mise en service du téléphérique Téléo.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, la suite avec l'invité de ce numéro, Jean-Michel Latte, adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, chargé des transports en commun, des déplacements et des nouvelles mobilités et président de Tisséo Collectivité. Nous reprenons le fil de notre discussion. Alors d'abord concernant le projet de la troisième ligne de métro, où en est le chantier aujourd'hui? Est-ce qu'il suit son cours normal? Malgré les retards, malgré la crise sanitaire et les confinements, bon, je pense qu'il y a eu quand même quelques petits aléas.
Les chantiers, quels qu'ils soient, que ce soit le métro, que ce soit un lycée, que ce soit un collège, ne seront plus jamais les mêmes avec les protocoles sanitaires actuels. Donc on n'est plus sur un fonctionnement à l'ancienne, hein, j'allais dire, mais sur un fonctionnement qui tient compte de nouvelles contraintes dont il faut prendre la mesure. Alors c'est un chantier compliqué, mais tous les grands chantiers sont des chantiers compliqués. C'est un chantier qui avance. On est aujourd'hui sur la fin des étapes administratives. On est en attente du résultat de cette enquête environnementale qui va clore ce long processus administratif. Après, on est sur des étapes de chantier. Tout chantier peut connaître un incident, c'est bien sûr imprévisible, mais on est sur un calendrier qui est aujourd'hui bien assuré.
Alors, il y a des travaux préparatoires, vous en avez parlé, hein, oui, qui sont en cours actuellement. En quoi ils consistent, en fait, ces travaux dits préparatoires?
Ce sont des déviations de réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des réseaux qui passent par l'emplacement des futures stations. Et donc, on anticipe. Alors, c'est à la fois de la déviation de réseau, mais aussi de la rénovation de réseau. On en profite pour faire des rénovations. Tant qu'à sortir et déplacer un morceau, on crée un chantier sur toute la perspective et la ligne de ces réseaux pour que ce soit, une fois fait, et plus à refaire.
Donc il y a des travaux de déplacement de réseaux souterrains, il y a du forage, et puis il y a des campagnes de diagnostic archéologique. Ça aussi,
voilà,
c'est une obligation. Ça.
C'est une obligation. Alors, on est moins impacté que les deux premières lignes qui passaient par le centre-ville historique. Hein, à Esquirol, par exemple, il y avait le palais
des Visigoths.
Des Visigoths qui était en place. Voilà, donc on a ce genre de choses. On a eu une découverte dans l'extension Alinua qui était assez amusante. On a trouvé une mâchoire de rhinocéros et des écailles de tortue, hein, qui sont aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc on peut toujours trouver ce genre de choses, mais la probabilité sur l'axe que nous avons choisi est quand même moindre que l'hypercentre-ville de Toulouse.
En tout cas, ça n'a pas été le cas pour l'instant pendant ces
travaux
préparatoires.
Voilà, mais bon, on est attentif.
Si ça arrive, si on tombe par exemple, bon, vous parliez du palais des rois visigoths, mais sur des objets, des artefacts, des traces d'occupation humaine très anciennes, okay, est-ce qu'il y a systématiquement des fouilles préventives? Ça
oui,
aussi, c'est une obligation. Ça.
C'est une obligation. C'est-à-dire que quand on a trouvé par exemple la mâchoire de rhinocéros, on a arrêté le chantier sur Jaurès de l'extension de l'Ainua le temps que les archéologues puissent faire leur travail. Donc on est sur quelque chose qui est, à mon avis, très utile, hein, pour l'histoire de la ville, mais on a un savoir-faire par rapport à ça.
Les travaux en cours, alors vous avez indiqué leur nature aujourd'hui, mais quels sont les secteurs où ils ont lieu en ce moment, et peut-être aussi pour ceux qui fréquentent ces lieux, ou parce qu'ils y habitent, ou parce qu'ils y passent sur leur trajet professionnel, où ont-ils lieu? Alors je crois que c'est Blagnac et Toulouse aujourd'hui.
Oui, alors on a de multiples travaux en cours qui sont lancés par rapport à ces déviations de réseau en particulier. Un gros chantier sur Audi Sud, avec la réadaptation du tram, un gros chantier sur François Verdier. On a la même chose sur la place de l'Ormeau, sur l'espace Bonnefoy, là c'est en phase terminale. Donc on a tous ces chantiers qui se multiplient et qui sont gérés comme des chantiers aujourd'hui ordinaires de voirie.
Ça dure combien de temps en général?
Alors,
c'est quelques semaines,
dépend.
Ça peut être plus
oui,
long.
Quelques semaines, celui de Bonnefoy était plus long que les autres parce qu'il y avait des techniques problématiques, des choses à régler, mais on reste sur une dizaine de semaines en moyenne par chantier.
Effectivement, il y a une dizaine de chantiers en cours, il y en a certains qui sont quasi terminés, voire terminés.
Oui.
Les désagréments pour les riverains ou ceux qui passent donc, dans ces zones de travaux, c'est quoi en général? C'est des déviations, des rues qui d'un seul coup sont en sens unique, des problèmes de stationnement?
Voilà, c'est exactement la même chose que quand on refait une rue, hein, c'est-à-dire qu'on adapte les plans de circulation. Et puis, on a la chronologie des intervenants. On commence par les gens qui sont chargés des réseaux, EDF, etc., etc. Et ensuite, on passe aux grosses œuvres, c'est-à-dire la reconstitution de la voirie. On a des cycles qui sont bien identifiés.
Donc, les désagréments en question, on l'a dit, hein, c'est quelques semaines en général. Quelle va être la phase qui va suivre les travaux préparatoires? Quels vont être les travaux suivants? Quelle est leur nature et quelles seront les échéances?
En 2022, on va lancer les appels d'offres grosses œuvres, comme on dit, avec à la fois les tunneliers, les stations, tout ce qui est important structurellement. On aura en 2023 une quarantaine de chantiers qui seront impactants. Et puis tout cela baissera en 2026 avec le second œuvre qui, lui, n'impacte pas l'extérieur. Voilà, donc on est sur ça pour une ouverture, on l'espère, en 2028.
Un sujet qui fâche peut-être, je ne sais pas, il y a un collectif qui s'est nommé, baptisé les faiseurs de ville, qui a mis en cause les chiffres de Tisséo et qui juge négatif le bilan carbone de la troisième ligne de métro. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous leur avez répondu?
Alors, je suis tenu à une obligation de réserve puisqu'on est en pleine autorisation environnementale. Alors, les faiseurs de ville sont des gens qui sont sans doute des ingénieurs, des gens qui ont des profils techniques, mais ce sont aussi des gens qui ont participé à Archipel. Hein, donc,
des militants, ce sont des militants politiques, c'est ce que vous voulez dire.
On parle des faiseurs de ville, il faut savoir que deux d'entre eux sont... Des gens qui ont participé activement à la campagne d'Archipel, ce qui est parfaitement leur droit. Mais ce que je veux dire, simplement, pour ne pas aller plus loin, puisque je suis tenu à cette obligation de réserve, c'est que quand on utilise des critères différents, on n'obtient pas des résultats identiques. Et donc, c'est un problème de méthodologie qui nous oppose aux faiseurs de ville, et uniquement un problème de méthodologie. Le bilan carbone, c'est toujours quelque chose de complexe. On est sur des projections, des suppositions. Mais Toulouse n'aura pas la seule ligne au monde qui aurait un bilan carbone négatif dans son usage. Hein, l'objectif pour nous, c'est de réduire la circulation de 90 000 trajets par jour. Bien entendu, lorsqu'un métro fonctionne, c'est extrêmement vertueux en matière environnementale.
Les gains, justement, vous les avez calculés, hein, les effets, les impacts estimés de la troisième ligne, notamment sur le désengorgement du périphérique, ça c'est un vieux serpent de mer, le trafic routier en général, les gains sur le temps passé dans les embouteillages, et bien sûr, on vient d'en parler, les effets sur l'empreinte carbone dans la métropole toulousaine, donc vous l'avez dit, 90 000
trajets de véhicules en moins par jour. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est aussi sur une baisse de la pollution par véhicule qui va s'ajouter à ce bilan.
Voilà, donc il y a un effet à la fois quantitatif et qualitatif.
Bien sûr,
si
voilà,
les
deux jouent.
On en vient à Téléo, donc ce fameux téléphérique urbain sud, mis en service prévu au printemps. Est-ce qu'on peut donner, si ce n'est une date précise, en tout cas la semaine où ça devrait avoir lieu?
Alors, on est autour de début mai. On va laisser passer la campagne présidentielle. On est dans une phase actuelle de test. Donc, un test, ça peut être prolongé si nécessaire. Voilà. J'hésite toujours à donner une date précise parce que, après, le calendrier peut être démenti. Mais on est sur la fin de ce chantier. On est dans la phase test, qui sont des tests qui sont menés par les services de l'État. Et on aura, au final, une autorisation d'exploitation, on l'espère, du préfet, qui nous permettra de lancer enfin Téléo.
Donc échéance, première semaine de mai, première quinzaine de mai.
Voilà, début mai.
Il y a eu des retards tout de même.
Bien sûr.
Et assez conséquents, hein, puisque si ma mémoire est bonne, il y avait une mise en service qui était prévue peut-être pour l'été 2020, quelque chose comme ça, ou fin 2020.
Voilà, on était dans ces eaux-là, oui.
Donc il y a un retard d'un an et demi.
Oui.
Alors à quoi est-il dû en fait?
On a été impacté et fortement impacté par la crise Covid, comme d'ailleurs toutes les collectivités publiques. Hein. On parle du retard de Téléo, mais on pourrait parler du retard des lycées, des collèges, des écoles,
de beaucoup de grands chantiers.
Voilà. Nous, on a été arrêtés par le confinement, donc il y a eu des périodes où rien ne s'est passé. Et puis lorsqu'il a fallu redémarrer, les protocoles qui ont été imposés sont des protocoles très contraignants. Ils ne sont pas discutables, il fallait ces protocoles. Mais par exemple, on a eu des phases où on avait 4 entreprises qui travaillaient en même temps avant le Covid. Ces entreprises ont été obligées de travailler par flux successifs. Chacune intervenait quand les autres n'étaient pas là, avec un calendrier qui nécessairement était un calendrier étalé. Donc on avance. Je pense que cet équipement est un équipement pour 50 ans. Hein, donc ce ne sont pas quelques mois qui impacteront l'usage. Je sens quand même un enthousiasme des Toulousains. Ils en parlent beaucoup. Il y a beaucoup de photos sur les réseaux sociaux puisqu'on voit passer les cabines maintenant. Et donc, je pense que ce sera un grand succès.
Bah surtout, c'est unique en France, en tout cas, en trajet terrestre.
Voilà, c'est le plus grand téléphérique urbain, je dis bien urbain de France, 3 km. Pour mémoire, Brest fait 400 mètres en traversant la rade.
Est-ce que vous avez été aussi confronté à des problèmes d'approvisionnement ? On parle beaucoup de problèmes d'approvisionnement depuis le début de la crise sanitaire. Alors peut-être que ça va s'accentuer malheureusement avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Est-ce que vous avez eu aussi des problèmes de ce genre ?
Oui, bien sûr, on a eu des problèmes, en particulier les plus récents, ce sont des problèmes d'approvisionnement de pièces électroniques du sud-est asiatique. Téléo est exploité avec un système de visio-caméra et on a eu quelques problèmes pour mettre en place ces caméras parce qu'il nous manquait des pièces, mais c'est traité aujourd'hui.
Alors, petit rappel tout de même, le tracé de la ligne Téléo, quels sont les points qu'il va relier et pourquoi vous avez choisi précisément ce mode de transport sur le trajet en question ?
Alors d'abord parce qu'il y a une grosse colline, la colline de Pêche-David. Et puis, c'était, je le disais tout à l'heure, un maillon, le maillon central de ce qu'on appelle la ceinture sud. Donc ça part de Paul Sabatier, l'université Paul Sabatier. On monte vers l'hôpital Rangueil et on descend ensuite vers l'Oncopole. Mais il faut savoir que ce n'est qu'un morceau de cette ceinture sud, puisque, comme je l'ai indiqué, on a un bus rapide qui part de Paul Sabatier pour aller vers Saint-Orens, Montaudran, et de l'autre côté, un bus rapide qui est déjà en fonction, d'ailleurs le bus 25, qui part vers Tournefeuille pour un terminus à Colomiers. L'enjeu, c'est de faire comme pour la partie nord avec la troisième du métro, c'est de créer une grande transversale qui permette de sortir du réseau en étoile que nous connaissons aujourd'hui.
Voilà, tout ça s'inscrit dans un dispositif global, effectivement. Il y a un seul arrêt sur le trajet, 3 km de trajet,
oui,
un seul arrêt.
On part des deux extrémités et le seul arrêt, c'est l'hôpital Rangueil qui est au milieu du dispositif.
Combien de passagers va-t-il pouvoir transporter par cellule ?
C'est un système de 15 cabines qui tourne. J'allais dire, c'est comme un téléphérique dans un système de fonctionnement qui ressemble à des œufs. C'est-à-dire, on est en carrousel. 15 cabines, on pourra en ajouter d'ailleurs dans l'avenir, avec 34 personnes par cabine, une cabine toutes les minutes et demie en exploitation, donc c'est très rapide, on n'attend pas, et on espère environ 8000 personnes jour, sachant qu'on peut aller bien au-delà si nécessaire.
L'intérêt aussi de ce téléphérique, c'est plutôt bon marché par rapport à d'autres moyens de transport, et puis il y a un aspect écologique.
Bien sûr, c'est sans doute un des plus vertueux en matière écologique, On fonctionne à l'électricité. Vous avez sur l'Oncopole une grande ferme qui produit par le soleil de l'électricité. On a calculé que la consommation du téléphérique, ce serait le tiers de la production électrique de cette ferme solaire.
Cette ferme photovoltaïque.
Voilà. Donc on est dans des choses qui sont très vertueuses et tant mieux.
Le trajet, les 3 km, c'est 10 minutes à peu près ?
Voilà, un petit peu moins de 10 minutes, donc c'est très rapide. Et je crois que ça a un avantage en matière de transport, mais ça a aussi un avantage touristique. La partie haute est très intéressante. D'ailleurs, on essaye de travailler pour mettre en place une promenade qui vous amène depuis l'hôpital jusqu'au sommet de la colline Pêche-David, où là, on a une vue unique.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a une vue sans doute extraordinaire.
Incroyable. À droite, la ville, au centre, l'Oncopole, et à gauche, la zone naturelle, avec en fond, les Pyrénées.
Effectivement, surtout les jours de beau temps.
C'est pas
Alors,
mal.
On va se projeter un peu plus loin, justement 2028, quand Téléo, ça s'est fait, et la troisième ligne de métro seront en fonction. Est-ce qu'il restera des zones de la métropole encore mal desservies, où il y aura encore des choses à améliorer en termes de transport en commun ?
Oui, ça n'est jamais terminé, le dossier transport en commun. D'abord parce que la ville se développe, et puis parce qu'il faut toujours penser à l'amélioration du dispositif. Le grand chantier qui va accompagner ce lancement de la troisième ligne métro, ça sera pour moi la connexion avec le réseau ferré, en liaison avec d'autres opérateurs, que sont la région par exemple, ou l'État. Les 5 connexions SNCF que nous avons sur la ligne C, il faudra les exploiter, il faudra s'en servir, il faudra le développer. On aura aussi à revoir le maillage du réseau bus, puisque quand on crée une ligne métro, on redistribue. Ça s'est passé comme ça pour les deux premières, le réseau bus. Et puis, on aura à suivre la progression de zones d'habitat qui, aujourd'hui, sont peut-être un peu limitées en termes de capacité, mais qui deviendront importantes.
D'ici 2028, oui.
Voilà, et nous, on a un outil dont on ne parle pas assez, pourtant il est fondamental, c'est le réseau Linéo, ces bus gris-argent rapides qui connaissent un succès fou. J'ai dit 8000 personnes pour le Téléo. Il faut savoir que le Linéo 1, le premier Linéo qu'on a lancé, il était évalué à 16 000 personnes jour. Il fait aujourd'hui parfois plus de 26 000 personnes jour. Donc c'est quelque chose de très 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 intéressant.
Et donc qui va se développer dans
ce
les
réseau,
années à
voilà, il a vocation à se développer, mais sur les zones de forte densité.
Eh bien, voilà donc pour ce point sur les chantiers de la troisième ligne de métro et sur la mise en service du téléphérique Téléo et plus largement sur l'ensemble des transports en commun dans l'agglomération toulousaine. Merci beaucoup Jean-Michel Latte.
Merci à vous.
D'avoir été l'invité de cette émission et d'avoir présenté à nos auditeurs ces deux projets essentiels, je le rappelle, pour la politique de transport et les mobilités dans la métropole toulousaine. Téléo sera en service début mai, première semaine de mai à peu près. Quant à la troisième ligne de métro, nous referons bien sûr des points réguliers sur l'avancement de ce chantier. Si vous souhaitez avoir encore plus de détails sur l'un et l'autre projet, je vous invite à consulter le site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la catégorie projet, rubrique troisième ligne de métro et rubrique téléphérique urbain sud. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bon week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.